Les As de la copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue les syndics, les copropriétaires, les gestionnaires, bienvenue dans les As de la copro. Nouvelle formule, alors on a redécoupé un petit peu les séquences, nos As sont toujours là et on a toujours un invité pour la première séquence, mille millième.
Les As de la copro, mille millième.
Voilà, donc mille millième intégré dans les As de la copro, toujours un invité de marque. Et aujourd'hui, je reçois un syndic, Jérôme Javazo. Bonjour Jérôme.
Bonjour Gilles.
Jérôme, vous êtes syndic, donc vous êtes président de l'agence centrale à Lyon. 55 collaborateurs, donc c'est un beau cabinet, un cabinet qui pèse. Et vous avez, c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, vous avez été lauréat, vous avez remporté les trophées de la copro au dernier salon de la copropriété à Paris qui a eu lieu le 6 et le 7 novembre. Et vous avez remporté un trophée dans la catégorie syndic pour une innovation en matière de management. Quelle est cette récompense? Pourquoi vous avez été récompensé, Jérôme?
Cette récompense, je l'ai eue sur un projet, c'est pas un projet, puisque c'est déjà mis en place, de création d'une, je l'ai appelé une pépinière, où je forme des jeunes en alternance, donc à partir du master, en leur confiant un portefeuille, c'est ça l'innovation, en leur confiant un portefeuille en autonomie de copropriété d'immeubles de moins de 25 lots, en complète autonomie avec un tuteur qui les suit quand ils ont des problématiques.
Donc la particularité, et c'est là un peu la nouveauté, c'est que ce sont des alternants qui sont gestionnaires, ils ne sont pas assistants. Ils sont étudiants, alors, puisqu'ils sont en alternance, mais ils sont déjà gestionnaires.
Alors, ils sont étudiants, mais justement l'innovation elle est là, c'est que ce sont des gestionnaires, hein, ce qui est tout nouveau. L'avantage, moi je suis parti d'un constat double, c'est qu'on manque de gestionnaires dans notre profession, ça c'est un secret pour personne, mais le problème c'est qu'on forme des jeunes à ce métier, heureusement pas assez, mais on en forme quand même, et quand ils arrivent sur le marché, ils sont pas expérimentés. Or, nous cherchons des gens expérimentés pour gérer nos copropriétés. Et c'est vrai qu'avec cette formule que j'ai créée de pépinière, en leur confiant un portefeuille en autonomie, alors certes, ce ne sont pas des portefeuilles
très
techniques.
Ils ont combien d'immeubles à peu près?
Ça varie beaucoup de la typologie, mais excusez-moi, j'ai un portefeuille avec 34 copropriétés, 258 lots, donc ça fait pas beaucoup, c'est des petites copros.
Oui, petites copros, ouais.
Un portefeuille, par exemple, avec 8 copropriétés, mais 600 lots. On peut parler d'ASL, de garage, etc. J'en ai un autre portefeuille de 23 copropriétés, 600 lots. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on arrive à former des gestionnaires quand ils sont diplômés, ils peuvent parler d'expérience.
Vous les recrutez à quel niveau d'études?
À partir du master.
Donc à partir de la troisième année,
Bac plus 3. Voilà, c'est ça,
Bac plus 3. Donc ils font une alternance de 2 ans.
Alors, très souvent, 3, ils ont déjà 4. Fait une alternance, donc ils ont une petite expérience.
D'accord.
On est assez implanté, on travaille beaucoup avec Sciences U sur Lyon. Donc ça fait très longtemps qu'on prend des jeunes chez Sciences U.
Sciences U, Subtertiaire, je crois qu'ils sont ensemble.
Et l'avantage, c'est qu'on est très connus et que Sciences U, maintenant, nous donne un petit peu les meilleurs élèves de leur promotion.
En tout cas, ceux qui sont déjà un peu attirés par la copro.
Ceux qui sont déjà attirés par la copropriété et ceux qui ont déjà un niveau qui l'ont prouvé à travers leurs deux premières années. Et du coup, on peut leur confier à eux en autonomie, parce que c'est quand même pas une tâche facile, ces portefeuilles sans problème.
Et ils ont quel type de contrat, hein? Parce que là, l'idée, c'est peut-être qu'on ait aussi des syndics qui nous écoutent, et qui s'y mettent aussi, qui suivent l'exemple, parce que c'est hyper important, l'alternance, l'intégration des jeunes sur le marché et sur ce marché du travail-là, qui demande une certaine maturité. Ils ont un contrat, quel type de contrat? Ils ont un statut, un contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation?
C'est un contrat d'apprentissage classique, hein, très classique. Au niveau du modèle économique, vous savez qu'on a une aide de l'État de 6 000 euros par an.
Oui, il y a un avantage fiscal, j'allais y venir. Au niveau du salaire, au niveau de l'aide, comment ça se passe?
Eh ben, ça fait une aide qui est quand même pas négligeable pour prendre ces jeunes, parce que ça nous prend comme beaucoup de temps de les former. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette aide. Mais, et ça nous fait aussi arriver sur, il faut pas se voiler la face là-dessus. Avec ce système, j'ai créé un modèle économique qui est viable. parce qu'on sait que la gestion de petites copropriétés, c'est très, c'est chronophage et c'est pas, ça apporte pas de rentabilité au cabinet. Et du coup, l'avantage est double, hein, formant ces jeunes, hein, puisqu'on crée des gestionnaires efficaces à leur sortie de l'école. Et en plus, on crée un modèle économique intéressant pour le cabinet, puisque comme ils ont une rémunération qui est assez basse, de gérer ce portefeuille, ça crée une espèce de rentabilité.
En oui, fait, parce qu'un alternant est à mi-temps par définition, puisque la moitié de la semaine...
Un alternant est à mi-temps.
Il est en école, l'autre moitié de la semaine, il est en entreprise. Donc, il est vrai que c'est intéressant pour ces petits immeubles. Et c'est un problème, les pouvoirs publics l'ont relevé, hein, notamment sur les copropriétés dégradées. D'ailleurs, vous êtes CalISR, hein,
oui,
je crois.
Oui, c'est ça, on est CalISR.
Vous avez des copropriétés en pré-difficulté ou en difficulté. Il est vrai que le service du syndic est devenu un peu cher. Et pour ces petites copropriétés, ça peut faire cher. Alors, leur mettre à disposition un gestionnaire, alors pour le coup, un gestionnaire qui est à mi-temps. Donc, il faut quand même qu'il y ait une équipe autour de lui pour continuer la gestion de l'immeuble lorsqu'il est à l'école. Comment ça se passe au niveau de l'encadrement de ces jeunes ?
Au niveau de l'encadrement, on a deux modèles d'étudiants, en fait. On a des étudiants... on a une étudiante qui est à l'université de Toulouse, d'ailleurs, qui a un petit portrait.
Oui, à Capitale, oui. Ouais.
Donc on a des étudiants qui sont là lundi, mardi, mercredi, d'autres mercredi, jeudi, vendredi. Déjà entre eux, ils ont un tuteur également, en fait, qui peut prendre le relais avec forcément une assistante avec un back-office. Et puis bon, bah, on a un service avec 10 gestionnaires et assistantes, donc ça fait une vingtaine de personnes pour assurer le back-office.
D'accord, donc il y a quand même un gestionnaire, on va dire, titulaire, qui sait que ces immeubles-là, en l'absence de l'alternant, c'est lui qui doit intervenir pour dépanner ou les urgences. Tout ça est prédéfini et organisé.
C'est très organisé. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça au micro, mais ces jeunes à qui on confie en autonomie un portefeuille, ils sont tellement fiers de gérer ce portefeuille et d'avoir ce rôle de gestionnaire junior, on peut parler
qui
de gestionnaire junior.
Qui continue de gérer à l'école.
qui gère leur portefeuille toute la semaine. Hein. La réalité, elle est là. Le soir, quand ils sortent de l'école, ils répondent aux mails, ils répondent aux appels. En réalité, ils gèrent tout seuls leur portefeuille vraiment en autonomie sur la semaine, sur une semaine complète.
Il y a toujours une continuité, les mails qui arrivent sur le téléphone portable.
Et voilà, il y a une continuité, ils sont sur leur téléphone portable, les ordinateurs portables, on a des systèmes nomades, ils peuvent travailler de n'importe où. Et c'est la réalité, c'est qu'ils sont tellement contents, ils prennent tellement à cœur ce rôle-là. Et puis on fait des passionnés aussi, parce que c'est vrai que de donner des responsabilités à des jeunes comme ça, étudiants, on en fait des passionnés au final, et c'est ce qui est génial. Et quand moi je les force pas, je leur demande même pas de travailler en dehors des journées en entreprise, ils le font naturellement. Moi je le découvre, parce que je vois bien comment ils travaillent, et le retour des clients, qui est toujours positif d'ailleurs. Hein, on a un retour des clients qui est très positif, donc la réalité elle est là, c'est qu'en fait il n'y a même pas besoin de support, ils gèrent vraiment en autonomie leur portefeuille.
Votre idée, c'était également une certaine synergie, mutualisation avec les autres confrères de la région, de votre ville, pour vous échanger, alors au terme du contrat, vous présenter mutuellement ces jeunes qui ont fini leur formation. Ça marche, ça, cette synergie? Vous pouvez récupérer un jeune qui a bossé dans un autre cabinet et vice-versa?
Alors, c'est plutôt... on forme ces jeunes. Quand je peux les embaucher, à la fin, évidemment, je les embauche. Ça arrive assez souvent de les garder, d'ailleurs. Mmh. Et quand c'est pas possible, on a un jeune qui est formé avec une expérience. Et moi, c'est avec plaisir que je les oriente vers des confrères. Alors, j'avoue, vers des indépendants en priorité, parce que c'est... Mais oui, bien sûr.
Alors les groupes ont aussi la pépinière, hein. On a Mathieu de Foncia qui nous rejoint tout à l'heure. La pépinière, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin le mot, hein, pépinière.
Ah oui, moi je suis passé par Foncia, donc je connais très bien. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la pépinière, je crois, mais c'est pas du tout le même modèle de ce que je connais. Alors peut-être que le modèle a changé aujourd'hui, mais des pépins dans le groupe Foncia, en fait, ce sont des gens qui vont remplacer des gestionnaires.
Et qui ne sont pas en alternance, je crois.
Qui ne sont pas en alternance, ils sont en contrat, ils sont embauchés. Là, on parle vraiment d'étudiants qu'on forme, à qui on donne des portefeuilles en autonomie pendant leur année d'apprentissage. Quoi.
Ouais. Et quel conseil vous donneriez à vos confrères, alors un peu en conclusion et en résumé, mais vraiment les avantages de cette formule? Parce que on le voit, les syndics sont toujours en recherche de gestionnaires, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais paradoxalement, les jeunes qui cherchent un poste en alternance ont du mal à trouver chez un syndic, parce que il faut aussi recevoir le jeune, faut être préparé. Et c'est vrai que dans une petite structure, s'organiser pour accueillir un jeune, parce qu'il faut un tuteur ou un maître d'apprentissage. Avec le télétravail, c'est pas non plus toujours facile, parce qu'un jeune en alternance, en télétravail, c'est pas possible. Donc comment tout ça s'organise? Comment on peut pousser nos confrères à vraiment y aller à fond sur l'alternance?
Je dois avouer que c'est pas si évident que ça, hein, de prendre des gens en alternance, qu'il faut s'en occuper. Comme vous le disiez à l'instant, ça prend du temps, ils sont là à mi-temps, il y a quand même une rémunération inversée, qui est de l'ordre de 800-900 euros en moyenne. C'est vrai que c'est peut-être plus facile quand on est un petit peu structuré, quand on a des cabinets avec au moins 3-4 gestionnaires pour s'en occuper, parce que ça prend vraiment du temps à former, etc. Moi, je pense que la formule que je suis en train de déployer est la meilleure, parce qu'en fait, il y a un intérêt aussi économique pour le cabinet. Quand on a un tout petit cabinet, ça prend du temps, on ne voit pas trop l'intérêt, on ne peut pas confier un portefeuille à ces jeunes. Aujourd'hui, quand on a une taille moyenne de cabinet, on peut prendre ces jeunes, leur confier ces copropriétés qu'on a tous, ces petites copropriétés de 3, 4, 5, 6, 10 lots.
C'est là le...
Et c'est là, en fait. Hein. Alors ça, c'est une problématique qu'on rentre compte dans les cabinets, parce que c'est pas rémunérateur.
Sachant qu'une petite copropriété n'est pas forcément simple à gérer. Hein.
Elle n'est pas forcément simple à gérer, mais en tout cas, elle n'est pas rémunératrice.
C'est ça.
Ça, c'est une certitude. Ce qui pollue, dans la profession, on dit souvent que ça pollue les portefeuilles, et sans intérêt économique. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a peut-être cette solution-là avec ces jeunes à qui on leur confie. On peut confier ces petites propriétés. Alors, je ne sais pas, à Paris, je crois que c'est un petit peu plus cher, mais nous, en province, c'est une petite propriété. On est à 1500, 1800 euros minimum de forfait. C'est très bas.
1500 euros TTC, ouais.
C'est très bas.
Je fais plus de Moi, je suis syndic à Paris, je fais plus de propositions en dessous de 4500 euros.
Voilà. T'as mais le drame est là, en fait. C'est-à-dire qu'on rencontre une problématique aujourd'hui, c'est que plus personne veut gérer des petites propriétés. Je vois bien. Aujourd'hui, on en est à un point où les confrères me les envoient. C'est-à-dire que des gens m'appellent en disant, c'est un de vos confrères qui m'a demandé d'aller chez vous parce qu'ils prennent plus de petites propriétés. C'est dramatique. Parce que c'est notre métier. Ils ont besoin d'être gérés. Et ces gens-là, c'est vrai, 4000 euros, 3500 euros sur Lyon. Intramuros, il y a des confrères qui pratiquent ces prix-là aussi. Et c'est dramatique parce que ces gens ont besoin d'être gérés. Et c'est notre métier, on ne peut pas refuser. Moi, j'ai du mal à refuser même une petite propriété. Il n'y a pas que l'intérêt économique. Mais voilà, il faut l'accepter. Et c'est vrai que du coup, on peut solutionner ce problème national, hein, qui est un problème national. Ce n'est pas que Paris, ce n'est pas que Lyon, c'est vraiment national. En se disant, et moi, c'est le discours que j'ai avec les clients des petites propriétés, en leur disant, voilà, moi, je vais bien vous gérer, ça vous coûtait 1800 euros.
Mais
je vous préviens, c'est un jeune.
C'est un débutant.
C'est un débutant.
Qui est encadré.
Qui est encadré, qui est alternant, quel niveau. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas un immeuble technique. Et si jamais il devenait technique, de toute façon, il y a des gestionnaires.
Et donc, ça, ils sont d'accord. Le copropriétaire, conseiller syndical, il est d'accord. Il achète ça.
Ça, il achète. Et là, moi, je peux vous prendre à 1800 euros dans ce contexte-là. Maintenant, si vous voulez un gestionnaire confirmé, parce que vous voulez pas un jeune, c'est 3500 euros.
OK.
Voilà. Et le discours, il marche bien, ils prennent 1800 euros, ils prennent le jeune étudiant, ils savent qu'il est encadré, qu'il y a des gestionnaires confirmés autour, etc. Et ça fonctionne. Et du coup, là, on a un début de solution, en tout cas, je pense, pour ces petites copropriétés. Et on voit, ça s'est accéléré, moi, je pense, ces derniers mois, où tout le monde les refuse, en fait. Plus personne n'est
capable. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place ce modèle
Ça va faire une petite année, là.
Une petite année, voilà, et ça tourne bien.
Ça tourne très bien, on n'a aucun retour des clients. Ça marche. C'est une très très belle surprise.
Eh bien, on a trouvé la formule magique pour gérer toutes ces petites copropriétés en France et en même temps offrir du boulot aux jeunes et les intégrer dans un secteur qui manque cruellement de main-d'œuvre et de bonnes âmes et de bonne volonté. Et en plus, encadré dans un, bien sûr, cabinet bienveillant. Je vous remercie, Jérôme Javazo. Donc, je rappelle que vous êtes président de l'Agence Centrale à Lyon. C'est à côté de Lyon, hein, pas tout à fait.
Et le siège est à Mézieux, et ensuite il y a une agence à Bron et une autre à Lyon intramuros en Presqu'île.
Mézieux, oui, c'est ça. Eh bien, je vous remercie, Jérôme.
Merci, Gilles.
Vous restez avec nous, on enchaîne avec nos experts.
Les As de la CoPro, l'analyse des experts.
Vous êtes toujours avec nous, les As de la CoPro, et on enchaîne sur cette deuxième séquence, l'analyse des experts, et on retrouve nos As de la CoPro. Mathieu Mialaret, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Voilà Mathieu, vous êtes toujours directeur métier ADB syndic chez Foncia, et Pierre-Edouard Lagrelet, bonjour Pierre-Edouard.
Bonjour Gilles.
toujours avocat au barreau de Paris et de Bordeaux. Et merci pour la dédicace du code de la CoPro, le Litech, le bleu. Je fais un peu pub, c'est comme ça, mais c'est celui que je lis depuis 20 ans. Mais j'aime bien aussi Dalloz quand même. Allez, on va commencer avec cette séquence. On a 10 minutes là pour faire un point un peu juridique. Le syndic est-il un mandataire ou un prestataire de service? Normalement, la question n'est pas censée se poser. Il est mandataire, mais on voit qu'il y a des discussions, des débats, on voit un contrat qui est arrivé, un contrat type. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu, un petit topo, un petit point, et surtout nous dire, vous, ce que vous en pensez, Pierre-Edouard.
Oui, c'est un débat assez ancien finalement, et on a pu le mesurer lors d'un colloque assez récent à l'Université de Toulouse, où il y avait eu un débat sur la question avec... avec deux doyens, c'était au fond la cristallisation de ces positions, de l'évolution du métier, que le législateur, à mon sens, n'a pas forcément prise en compte. Et je pense qu'il faut distinguer deux questions assez nettement, qui est la première, celle de la nature du contrat telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle a été pensée par le législateur en 1965 et telle qu'elle est encore aujourd'hui. Et la question de qu'est-ce que pourrait être ce contrat demain au regard de l'évolution du métier, de la position du syndic et des attentes que les copropriétaires, comme les pouvoirs publics d'ailleurs, peuvent avoir du syndic. Et donc, il faut faire cette distinction parce que, à mon sens, et je ne suis pas forcément suivi par tout le monde, mais à mon sens, la qualification du contrat est assez claire, c'est un mandat, ça a été dit à l'instant, et les textes, en fait, il faut dire, le précisent expressément. L'article 18 vise le mandat, il y a plusieurs articles du décret qui visent le mandat, le contrat type du syndic qui a été édicté en 2015 vise le mandat, et donc il y a une assez grande clarté sur la volonté du législateur de qualifier expressément ce contrat de mandat. Maintenant, juridiquement, et après, on verra factuellement, parce que c'est ça qui peut nous amener à l'évolution. Mais on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'atteintes à des règles de droit commun. Et donc, la première question qui se pose juridiquement, c'est de savoir est-ce que ces atteintes sont telles qu'on ne peut plus parler de contrat de mandat, ou est-ce qu'au fond, c'est une évolution marginale, une adaptation, devrait-on dire, du contrat de mandat à la situation particulière de la copropriété. Donc, est-ce qu'on a un contrat, en somme, pour résumer, spécial de mandat, mais on reste dans un contrat de mandat, ou est-ce que finalement c'est devenu tout à fait autre chose? À mon sens, on est toujours dans un contrat de mandat. J'ai pu faire un article sur la question qui avait été publié à la JDI chez Dalloz, sur cette qualification, parce que, en fait, et on n'a pas le temps ici de rentrer dans tout le détail, mais les atteintes qui sont faites aux règles ordinaires du mandat sont de véritables adaptations aux règles du droit de la copropriété. Je vais prendre quelques exemples. Pour la désignation du syndic, en principe, c'est l'Assemblée Générale. Donc on a bien un organe du syndicat des copropriétaires, donc du mandant, qui désigne le mandataire. Sur ce point-là, on est donc dans une règle tout à fait classique, tout à fait conforme au droit commun. Mais il y a des exceptions qui sont prévues par le texte. On pense notamment à la désignation du premier syndic. Et là, on a une désignation d'un mandataire par un tiers, le promoteur, celui qui met en copropriété l'immeuble. Et ça n'est pas le syndicat lui-même. Et donc là, on a bien une atteinte à la relation intuitue personnelle entre le mandant et le mandataire. Mais on comprend bien pourquoi cette règle, elle existe. Elle existe parce qu'il faut que le syndicat des copropriétaires fonctionne dès sa création, dès sa naissance. Et donc, on a une adaptation de la règle de droit commun pour permettre la bonne représentation de la personne juridique, de la personne morale qu'est le syndicat des copropriétaires. Je ne vais pas prendre d'autres exemples parce qu'on n'a pas le temps ici. Mais en fait, on peut multiplier les explications qui sont faites sur la substitution, la cession, etc. Autant d'atteintes à ces règles. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que la nature du contrat donc n'est pas changée par ces exceptions. Maintenant, il y a la deuxième question qui se pose. Ce sont, en fait, l'évolution du métier, l'évolution des pratiques, des propositions que peut formuler le syndic, avec par exemple le contrat de prestation de service qui vient se greffer juste à côté.
De l'ordonnance élan.
Et qui fait que, d'ailleurs, on entend de plus en plus parler du syndic comme un prestataire, moins qu'un mandataire, alors qu'avant, il y avait d'autres expressions.
Et d'ailleurs, dans le contrat, on parle de prestations.
De prestations. Et autrefois, on entendait parler d'organes subordonnés qui lui feraient perdre un petit peu son autonomie dans la représentation. Et aujourd'hui, on parle de prestataire de service. Et à côté de ça, et là je laisserai Mathieu poursuivre, mais sur la prestation de service, on trouve aussi des missions qui sont données par le législateur et qui paraissent, en tout cas de prime abord, dépasser le cadre de la stricte représentation des intérêts du syndicat, parce qu'on a une prise en compte d'intérêts sociaux. Par exemple, la rénovation énergétique. On pourrait dire effectivement c'est l'intérêt des copropriétaires, mais en fait le texte dépasse très largement l'intérêt particulier des copropriétaires d'un immeuble. On est tout à fait dans la représentation d'un intérêt social au sens de société complète, c'est-à-dire de la société française. Et on a la même chose aussi sur la préservation des intérêts des personnes socialement marginalisées. Et là, c'est la lutte contre les marchands de sommeil, où on a donné des
Alors, le syndic assesseur utile des pouvoirs publics, ça vient de vous, et ce sera pour une prochaine émission.
Non, mais absolument, je ne le développe pas, je m'arrête juste là. Mais simplement, ça vient connoter la mission du syndic de copropriété, en fait, et on peut se demander si c'est toujours un mandant. Et juste pour terminer sur ça, et je laisse la parole évidemment à Mathieu, je pense que oui, parce que c'est tout simplement le droit de propriété qui s'est finalisé à des objectifs sociaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, les réformes sont multiples. Et de ce fait, le syndic vient représenter les intérêts des propriétaires dont la propriété a été finalisée. Et donc, on est toujours sur la représentation, à mon sens, du syndicat, et donc dans un rapport de mandat.
Au cœur. Merci Pierre-Edouard. Mathieu, votre point de vue, vous êtes syndic depuis plus de 20 ans. Vous l'avez vu aussi, peut-être, cette évolution?
Oui, alors moi, j'ai pas du tout un point de vue de juriste comme celui de Pierre-Edouard, mais vraiment un point de vue de praticien. Et là, clairement, il est évident qu'on est sur une dualité. Évidemment, en tant que syndic, on représente le syndicat des copropriétaires, et seul le syndic peut engager le syndicat des copropriétaires. Et pour ça, il est mandataire, il n'y a aucun doute. En revanche, clairement, si le syndic veut que ce mandat soit renouvelé par l'Assemblée Générale, il faut qu'il se positionne en prestataire de service. Effectivement, comme le disait Pierre-Edouard, le contrat ou même la loi de 1965 prévoit des actions du syndic, des obligations qui sont clairement celles de prestataire de service. Quand il doit assurer la conservation des archives, quand il doit rédiger un carnet d'entretien de l'immeuble, mettre en concurrence les contrats, il se positionne en prestataire de service. Et s'il veut que son mandat soit renouvelé, clairement, les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, mais aussi les copropriétaires, attendent de lui qu'il soit de bons conseils dans la maîtrise des charges, de bons conseils dans la programmation de travaux, de rénovation énergétique ou simplement d'entretien de l'immeuble. Et là, ça va largement au-delà d'une mission de mandataire et de représentant légal d'un syndicat de copropriétaires. Donc je pense que pour les professionnels et encore plus pour les copropriétaires, ce débat qui est hyper intéressant, en fait, n'a pas lieu d'être. On attend du syndic qui soit tout ça à la fois, représentant légal du syndicat. Et d'ailleurs, il faut que le syndic ne l'oublie pas. C'est à lui de prendre des décisions. C'est sa responsabilité qui sera engagée si le syndicat des copropriétaires fait une bêtise. Et donc il faut qu'il trouve cet équilibre entre être prestataire de service, c'est-à-dire satisfaire non pas le syndicat des copropriétaires mais l'ensemble des copropriétaires, et représenter le syndicat des copropriétaires qu'il va engager, et en l'engageant, il engagera sa propre responsabilité.
Oui, parce que dualité dit qui on est, sur quel pied je danse, et ce débat à Toulouse, le thème c'était l'identité du syndic. Qui est le syndic? Est-ce qu'il traverse une crise d'identité? Le fait d'avoir une dualité, c'est intéressant, c'est riche, mais ça peut être déstabilisant.
Oui, alors on parlait tout à l'heure du contrat. moi, je trouve que dans le sujet du contrat de syndic, et d'ailleurs, je pense que tout le monde parle un peu indifféremment du contrat de syndic ou du mandat de syndic, mais là, on parle bien du contrat, celui qui est joint à l'ordre du jour et qui est voté en Assemblée Générale. Alors, est-ce un contrat de mandat ou pas? Je laisserai Pierre-Edouard répondre à cette question. Mais ce qui est amusant, c'est que ce contrat, on sent bien que le législateur souhaite le normaliser de plus en plus. Et notamment, on le voit à travers la date de début et la date de fin,
le droit de la consommation
impératif. Donc on va dans le sens du droit de la consommation. Et maintenant, un syndic n'a pas le droit de faire voter à l'Assemblée Générale un nouveau contrat en cas de renouvellement de son mandat tant que le précédent n'est pas arrivé à son échéance calendaire. Alors qu'avant, à chaque fois qu'on était renouvelé en Assemblée Générale, c'est un nouveau contrat qui s'appliquait. Là, la règle est non, on doit attendre l'échéance du contrat en cours. Et même si l'Assemblée Générale a renouvelé le mandat, le nouveau contrat ne prendra effet qu'à l'échéance de celui qui est en cours. Même si l'Assemblée Générale
D'accord.
s'est tenue
Parce
deux,
que
trois
moi,
mois.
Moi, personnellement, je fais un annule et remplace.
Eh bien, un jour, peut-être vous aurez des soucis sur ce sujet-là, car la loi est très claire. On doit aller au bout, et la DDPP qui vient contrôler les cabinets est vigilante et nous demande...
Ah non, moi, je ne veux pas qu'ils reviennent.
Bon, voilà.
ils sont déjà venus.
Mais néanmoins,
pour les heures d'AG.
Néanmoins, ce contrat avec une date de début, une date de fin, avec des conditions de résiliation anticipées qui sont très clairement précisées par la réglementation, à savoir, il faut une inexécution suffisamment grave du syndic ou même du syndicat des copropriétaires. Là, on a un plus de mal à le comprendre. Ce contrat, avec ces règles, se heurte à la réalité du mandat et du fait qu'à tout moment, l'Assemblée Générale peut révoquer, sans aucune justification, le mandat du syndic. Et que dans ce cas-là, le syndic n'aura plus de mandat. Il pourra certes contester les conditions et demander éventuellement une indemnisation pour une rupture abusive de son contrat, mais il n'aura plus de mandat. Et donc, il ne pourra plus rien faire. Du jour au lendemain, il est dessaisi de la gestion de la copro. Et ça, c'est bien une règle du Code civil sur le mandataire. Tout comme l'Assemblée Générale pourrait décider de nommer un nouveau syndic. Et de facto, ça ferait disparaître le mandat du syndic en place.
Débat très intéressant. En 10 minutes, on a fait un super condensé. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on pourra faire un colloque entier sur cette question, même s'il y a plein d'autres questions qui nous intéressent. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite dans la séquence suivante. Je vous remercie, les As. Et on passe aux questions copro.
Les As de la copro, les questions copro.
Vous êtes toujours sur les As de la copro et on enchaîne avec la dernière séquence, les questions copro. C'est toujours le même principe, des copropriétaires nous posent une question au téléphone, nos experts y répondent. Et on lance la première question.
Bonjour, je suis copropriétaire sur Paris et je voudrais savoir comment on peut procéder lorsque notre syndic est en liquidation judiciaire pour récupérer nos fonds qui ont déjà été engagés. Et comment pouvons-nous changer de syndic ? Merci aux As de la copro pour nous éclairer sur ce problème.
Merci pour cette question. Pierre-Edouard, liquidation judiciaire de son syndic. On fait comment pour s'en sortir ?
On allume un cierge à l'intention de Sainte Rita, pour commencer. C'est la sainte patronne des causes désespérées. Et non, mais sans plaisanter, si le syndic, personne morale, est en situation de cessation des paiements et que la situation est irrémédiable, le tribunal va prononcer cette liquidation et elle va emporter une cessation d'activité et une disparition de la personne morale. Mais cette cessation et cette disparition, elle est à terme. Elle est au terme de la procédure qui emportera la liquidation définitive. Et en ce sens, on confond parfois la procédure avec la finalité. Et c'est justement ce qui pose problème en matière de copropriété. Parce qu'au jour où l'ouverture est prononcée, le syndic existe encore. Et ça, c'est quelque chose qui a changé parce que la Cour de cassation avait une position qui était très favorable au syndicat des copropriétaires, pourtant avec un texte qui n'a pas changé. Mais elle avait une position qui était favorable parce qu'elle disait que le mandat se trouvait rompu du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation, ce qui permettait de pouvoir changer immédiatement, c'est-à-dire qu'un copropriétaire pouvait convoquer, puisqu'il n'y avait plus de syndic sans que l'Assemblée Générale n'ait été convoquée pour se prononcer sur la désignation du syndic, et on appliquait la procédure de l'article 18. Mais cette jurisprudence, elle a changé, et elle a changé sur le fondement de l'article 641.11.11 du Code de commerce, qui nous dit que les contrats en cours ne sont pas résiliés de plein droit du fait de l'ouverture de la procédure. Et de ce fait, aujourd'hui, même si on a cette ouverture de la procédure, le syndic reste syndic. Donc a priori, on ne peut pas changer de syndic immédiatement. On va y revenir après sur la pratique qui peut différer de la règle. Mais en principe, le liquidateur va exercer les fonctions du syndic, enfin, est-ce qualité de représentant de la personne morale qui est désignée syndic de copropriété. Et dans ce cas, la voie qui va pouvoir être employée, et Mathieu en parlera tout à l'heure dans la pratique, c'est qu'on trouvera des palliatifs à cette situation difficile du mandat qui perdure.
Je sais pas si, Mathieu, vous faites comment, vous ?
C'est très
alors,
simple.
Alors, c'est pas Foncia, hein, parce que non. Foncia, évidemment, est en pleine santé, en pleine forme.
Mais la recommandation...
Vous récupérez un immeuble et on vous appelle, un client vous appelle.
Voilà, la recommandation qu'on peut faire, c'est...
D'ailleurs, j'ai dit client, un copropriétaire.
Prestataire, un copropriétaire nous appelle pour des conseils. La recommandation, c'est de fuir le plus vite possible. Pierre-Edouard vient de le dire, le contrat, et c'est marrant parce qu'on en parlait à la séquence d'avant, le contrat existe, il continue à exister, il a une échéance calendaire qui peut être dans 2 ans ou plus. Mais évidemment, le conseil, c'est de fuir au plus vite, puisque de toute façon, il n'y aura plus de prestations, hein, c'est assez probable. Il faut récupérer les fonds, Pierre-Edouard va en parler. Donc, notre recommandation, c'est d'organiser une assemblée générale, de demander au syndic de la convoquer ou passer le délai de mise en demeure de la convoquer soi-même, de manière à faire nommer un nouveau syndic. Donc là, on revient au sujet précédent. Est-ce que c'est une résiliation que le, que le droit permet, que l'article 18 de la loi de 65 permet ? Peut-être pas.
Parce Il est empêché, le syndic ? On peut dire qu'il est empêché ? C'est un cas d'empêchement ?
Je dirais, peu importe. Peu importe. Il faut faire nommer un nouveau syndic. C'est peut-être pas une position très juridique, mais c'est une position purement pratique. Vous faites nommer un nouveau syndic. On le disait tout à l'heure, le mandat donné au nouveau syndic de facto éteint le mandat précédent. Se pose le sujet.
Le liquidateur pourra demander une indemnité.
Oui, mais en fait, il le fera pas. Voilà. Alors, il y a peut-être un minuscule risque, mais le liquidateur, il aura bien d'autres chats à fouetter. Il va s'occuper des créanciers, de la réalisation de l'actif, et certainement pas continuer à gérer des copropriétés. Il en aura sans doute pas la possibilité matérielle. Voilà. Et donc, il faut s'en aller au plus vite. Alors, oui, il y a une petite part de risque si un jour un liquidateur décide de faire un recours. Mais sincèrement,
Pierre-Edouard, un dernier mot.
Oui, j'allais dire habillé, non, mais pour justifier quand même, parce que c'est certainement possible. Les inexécutions, il va falloir les distinguer. Les inexécutions qui précèdent l'ouverture de la liquidation ne peuvent donner lieu qu'à déclaration de créance. Donc il ne faut pas se baser sur des inexécutions passées, mais des inexécutions postérieures à l'ouverture. Mais il est très vraisemblable qu'au jour de l'ouverture et dans les 6 mois qui vont suivre, le syndic ne fasse pas grand-chose, parce que comme c'était dit, le liquidateur va avoir bien d'autres choses à faire. Et donc il suffit de documenter l'inexécution de ses fonctions par le syndic pour pouvoir justifier de la procédure de résiliation anticipée et donc de mettre en demeure le syndic de convoquer l'Assemblée Générale selon les termes du texte qui a été récemment réformé. Et ça devrait permettre comme ça de s'en sortir et de s'en sortir en évitant des risques de complexité juridique, d'éventuelles poursuites en indemnisation du préjudice, etc. Il y aurait une autre solution qui serait de demander au liquidateur de mettre un terme au contrat en sollicitant le juge commissaire, mais c'est quand même plus long, c'est plus complexe. Je pense qu'effectivement, le liquidateur...
Oui, on se fonde sur l'inexécution.
Et donc l'inexécution fautive postérieure à l'ouverture est certainement la solution à la fois pratique et juridique la plus efficace.
La plus sécure. Je vous remercie les As et on enchaîne sur la deuxième question du copropriétaire.
Bonjour, j'habite dans une grande copropriété à Strasbourg. Notre gardienne d'immeuble ne fait pas toujours très bien son travail et ce n'est pas très aimable avec les copropriétaires. Le conseil syndical lui a déjà fait des remontrances. En retour, elle a déposé une plainte pour harcèlement. Pouvez-vous nous dire qui a raison et qui a tort ? Je vous en remercie.
On change complètement de sujet. On est sur une gardienne qui pose problème dans un immeuble. En tout cas, les relations sont conflictuelles. Le conseil syndical met son nez dedans. Le syndic, il s'en occupe aussi. Mais bon, on est dans l'impasse. Vous avez bien entendu la question, Mathieu. C'est quoi votre solution ? Qui fait quoi ?
Bon, alors, pour commencer, il faut rappeler quelques principes fondamentaux. Le gardien ou l'employé d'immeuble, hein, je rappelle, gardien logé, employé d'immeuble non logé, ne sont pas salariés du syndic. Ils sont salariés du syndicat des copropriétaires. Et salarié du syndicat des copropriétaires, ça ne veut pas dire salarié des copropriétaires ou d'un copropriétaire pris individuellement. Donc, clairement, l'employeur, c'est le syndicat des copropriétaires et le représentant de l'employeur, et on y revient encore, c'est son mandataire, c'est le syndic. Et donc, pour le coup, l'état du droit est hyper clair sur la gestion du gardien ou du salarié du syndicat des copropriétaires. C'est le syndic qui doit intervenir, qui assure cette gestion. La loi lui donne d'ailleurs des pouvoirs qui sont vraiment importants, hein, puisqu'il décide lui-même d'engager, de congédier le personnel. Finalement, l'Assemblée générale fixe le nombre et, j'allais dire, la qualité des emplois. Mais après, en théorie, le syndic peut décider de congédier
tout seul.
Alors, si c'est fondé, hein, mais tout seul, sans demander l'avis de personne d'autre, sans réunir l'Assemblée générale ou sans même demander l'avis du conseil syndical. Dans la pratique, évidemment, c'est un peu plus compliqué, et notamment au quotidien, parce que le syndic n'est pas tous les jours dans l'immeuble, contrairement aux résidents. Contrairement souvent aux membres du conseil syndical, en particulier au président du conseil syndical, et qui peut avoir tendance à accompagner le gardien, à le guider, voire quelquefois à le manager. Or, clairement, c'est pas son rôle. Clairement,
le conseil syndical ne peut pas faire de remontrance au gardien.
Voilà, le conseil syndical ne peut pas faire de remontrance. Le pouvoir de direction, hein, ou le management,
le lien de subordination
appartient au syndic. Et c'est bien à lui de remplir cette fonction. C'est une des fonctions principales. Hein. C'est à lui d'encadrer le gardien, de lui donner des instructions et, le cas échéant, si c'est nécessaire, de lui faire des remontrances, de fixer des objectifs d'amélioration. Mais voilà, l'employeur, enfin le représentant de l'employeur.
Parce que là, la gardienne est quand même allée déposer une plainte pour harcèlement. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? Mais en tout cas, on en est là. Alors, là, que doit faire le syndic?
Ah ben le syndic doit être très clair, il doit intervenir auprès du copropriétaire qui devient peut-être un peu trop insistant ou qui...
Et c'est là qu'il faut être un fin politique.
Et là, il faut être un fin politique et expliquer, faire preuve de pédagogie et expliquer au copropriétaire qu'il y a un vrai risque pour le syndicat des copropriétaires, que chacun doit rester dans son rôle et que effectivement, il y a un risque. Alors peut-être pas de harcèlement, que le syndicat soit condamné pour harcèlement parce que, encore une fois, c'est pas l'employeur qui harcèle mais un tiers finalement, le copropriétaire. Mais il y a des cas de jurisprudence où le syndicat a été condamné parce que on considère que l'employeur n'a pas garanti la sécurité de son employé, n'a pas suffisamment agi pour faire cesser ces interventions externes qui prennent la forme de harcèlement. Et donc clairement, le syndic doit faire deux choses. Hein. La première, c'est être pédagogue et expliquer à ses clients, donc au conseil syndical, qui doit faire quoi. C'est normal qu'il y ait une collaboration, on peut l'appeler comme ça, entre le conseil syndical, les résidents et le gardien sur les choses quotidiennes. Mais en revanche, le management et les remontrances doivent venir du représentant de l'employeur. Et la deuxième chose, il faut que le syndic prenne son courage et quand il y a des choses désagréables à dire au gardien, c'est son boulot. Il ne faut pas qu'il laisse un président de conseil syndical qui peut-être a plus d'expérience que lui sur le sujet, mais non,
et
c'est
des choses désagréables à dire au président du conseil syndical aussi, et parce que Pierre-Edouard, on parle de la responsabilité civile des professionnels du syndic.
Oui, le syndic engage sa responsabilité, mais d'abord et avant tout, c'est le syndicat qui va engager sa responsabilité en tant qu'employeur. Il y a un arrêt fameux de la Cour de cassation sur ce sujet qui avait été rendu en 2011 et qui avait rappelé que l'employeur doit faire cesser l'éventuel harcèlement, à défaut de quoi le syndicat engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1152.1 du Code du travail, qui rappelle qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, etc. Et c'est le deuxième article 4121.1 du Code du travail qui rappelle que l'employeur a une obligation en matière de sécurité et qu'il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre d'atteinte. Mmh. Et en conséquence, le syndicat, donc le syndic, puisque c'est le représentant qui ne ferait pas cesser ce type d'atteinte, engage sa responsabilité, donc syndicat en 1 et syndic en 2, s'il n'a rien fait pour informer, faire cesser, etc. Donc le syndicat pourrait tout à fait se retourner, oui, contre le syndic qui serait défaillant, qui n'aurait pas informé les copropriétaires, qui n'aurait pas pris d'action pour faire cesser le harcèlement et qui aurait de ce fait engagé la responsabilité du syndicat qu'il représente.
Eh bien, je vous remercie. Alors, peut-être que Jérôme, vos alternants auront affaire à des situations conflictuelles. On leur souhaite, mais c'est le boulot. Mais s'ils sont bien encadrés, c'est comme ça qu'ils apprendront. Ce métier passionnant et très, très enrichissant. On l'a bien vu sur le plan humain, mais sur le plan juridique aussi. Je vous remercie, les As de la CoPro. Nos deux autres As, Alexis Sabrina, nous rejoindront sur les prochaines émissions. On était sur une nouvelle formule, un nouveau format. J'espère que ça vous a plu. Jérôme Javazo, merci beaucoup d'avoir assisté, participé à cette émission. Et je remercie l'ensemble de nos auditeurs et je leur dis ciao ciao, à la prochaine.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.